FMR 89.1.
Taxpayers, hello nasty bushwhackers, vous écoutez Radio Éphémère 89.1 MHz, également disponible sur le DAB+, canal 7C, ainsi que sur le stream radio-éphémère.net. Et ceci est l'émission Extrême Crossover, en direct de la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion du festival Extrême de cette même Cinémathèque. Aujourd'hui, eh ben, on n'est que trois. D'habitude, ils se battent pour avoir des places et il n'y en a pas assez parce qu'il n'y a que 5 micros, il n'y a que 5 chaises. Mais là, bon, ben, c'est bon, on peut s'étendre et tout. Tu veux poser tes pieds sur la chaise.
L'invité tranquille.
Voilà. Mais vous l'avez entendu, Infested Grunt, bonjour.
Bonjour à tous.
Toi, tu es bien là, fidèle au poste depuis le début de la semaine d'ailleurs.
Oui, mais bon là.
C'est très bien.
Ouais, mais hier j'ai fait relâche, donc je vais pas pouvoir t'accompagner pour le.
T'as fait relâche, d'accord, ok. Il y en a un qui a pas fait relâche, mais il ne fait même pas relâche pour venir ici pour nous parler des films de la veille. C'est DJ Last Hetero, donc qui est à la séance en ce moment. Il est en train de voir un western, le Fury au Missouri. Et notre invité est également présent, c'est Yves Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Qui va nous parler des petites pastilles, parce que Yves Gaillard travaille à l'INA, à Toulouse, donc, et va nous parler des petites pastilles qui sont l'avant-programme, l'avant-film, on va dire, de quelques séances. Et ça a été une sélection qui est faite chaque année maintenant, quoi. On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission, mais comme d'habitude, un petit peu de musique. Alors je me rappelle même pas ce que j'ai mis en premier morceau, c'est pas grave, vas-y, envoie, on verra après.
I think that
C'était horrible. Horrible, c'est pas.
C'était le nom du groupe, tu me rassures.
C'est le nom du groupe qui s'appelle Horrible. C'est les Français. Et le morceau, c'était You Can't Say No. À présent, ça va être vidu, vu qu'il y avait que deux films hier qui ont été diffusés. Le porno gay, donc, qui a été diffusé hier soir, en la présence de Claude Loire, d'ailleurs, qui joue dans le film et qui nous a raconté hier, eh bien, ses différentes aventures dans le monde du porno gay, mais pas que, hein, également dans le Paris un petit peu foufou des années 60. C'était vraiment très très bien. Mais par contre, eh bien, hier après-midi, dans le cadre de la double séance Printemps tardif, où bah, deux réalisateurs français vachement connus, oscarisés, ce que tu veux, enfin bon, à l'époque les Césars ça n'existait pas, mais bon, ils ont fait des films incroyables, Marcel Carnet et Jacques Demy. Jacques Demy, on y reviendra, parce que le Demy est programmé aujourd'hui, et hier, eh bien, c'était le film de Marcel Carnet, d'ailleurs, un de ses, pas son dernier film, hein, parce qu'il a continué sa carrière jusqu'à la fin des années 70, là, un film de 68 qui montre la jeunesse révoltés, les jeunes loups. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Eh bien, déjà, c'est une vision complètement sublimée, quoi, de ce qu'était la jeunesse de cette époque-là. Et en fait, eh bien, le film décrit, eh bien, les aventures d'un jeune arriviste gigolo, en plus, hein, c'est-à-dire que bon, ben, il hésite pas à aller avec des femmes un peu plus vieilles que lui, mais riches, parce que, en fait, tout ce qu'il veut, et ça, c'est un credo qui va se répéter et qui va répéter à tout le monde, pratiquement, du début jusqu'à la fin, eh bien, c'est, moi, je veux faire de la maille, moi, je veux faire du fric, parce qu'avec le fric, on peut tout faire, enfin, bon, voilà. C'était vraiment ça. Et sachant qu'à un certain moment, on se dit bon bah ok, parce qu'il est toujours super bien sapé, il est beau gosse, faut dire et tout, il a un sourire avenant, il a de la conversation, hein, mais il vient quand même d'un milieu très très pauvre. Et il y a une scène où il rentre chez sa mère dans les blocs d'immeubles parce que bah il vient de Sarcelles, quoi. Donc c'est pas pareil, quoi, que le 16e à Paris. Mais l'histoire est basé, eh bien, sur une espèce d'amourette qui se crée pratiquement depuis le départ, depuis la première scène du film, où, eh bien, il va se cacher sous un auvent d'un magasin, en compagnie de plein d'autres personnes qui sont là, qui se protègent de la pluie, et parce que comme à Paris, il pleut, et tu sais pas comment, hein, eh bien, t'as oublié ton parapluie, donc tu te planques, tu attends que l'averse soit terminée. Et là, il va rencontrer une jeune fille qui, contrairement à tous les autres, eh bien, qui sont vraiment des vieux et qui donc, ont des réactions de vieux par rapport à la jeunesse, tous drogués, enfin bon, tout y passe, hein, tous les poncifs vont y passer de toute façon tout au long du film. Eh bien, il va partir avec la jeune fille et en plus, dans une Sunbeam coupé, s'il vous plaît, quand même, hein, à l'époque c'était vachement rare, surtout les coupés, hein, les sedans ça existait, quoi, mais les coupés c'était quand même vachement rare. Et donc, eh bien, et là une histoire d'amour va se créer, tout, oui mais je veux pas de relation, nanana et tout, on fait ça, c'est l'amour libre et tout, enfin bon, voilà, la fille a également des grands principes, on va dire, hein, sur on n'est pas comme nos parents. Il y a toujours cette référence aux parents par rapport à, il n'y a pas de jalousie parce que on peut pas être comme nos parents, jaloux. Il y a plein de choses comme ça, donc ok, c'est bien pour cibler, hein, c'est-à-dire les deux générations qui sont opposées, alors que tu ne vois que la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, bon, on la découvre, et d'ailleurs, à l'occasion, on apprend que la jeune fille, c'est sa première fois, et tout, enfin bon, voilà, alors c'était bien, oui, mais je sais pas, il faudra que j'en fasse d'autres pour comparer, enfin bon, voilà, quoi, c'est un petit peu dans cette état d'esprit. Et lui, le jeune gigolo, lui, eh ben, il navigue entre différentes nanas, parce que dès qu'il y a un coup à faire où on peut ramener de l'argent, c'est-à-dire se faire payer, se faire avancer de l'argent, pour donner l'impression qu'on est, on fait partie de la bonne société, un petit peu riche, eh ben là, ok, ben, il va la délaisser, il va inventer, mais n'importe quoi comme crack pour pouvoir justement disposer d'un peu de son son temps et elle, ben, elle l'attendra dans une chambre d'hôtel. Ils sont dans une chambre d'hôtel. Le tenancier, ben, c'est un pote à lui, donc il n'y a pas de problème. Il lui fait crédit et en plus, ils ont une chambre avec douche. Hein, attention, hein, c'est quand même pas mal. Et ça va durer comme ça pratiquement tout le film, hein, avec des fois des espèces de cassures, parce qu'elle va rencontrer un jeune hippie, hein, qui fait partie de la bande des crasseux, comme ils disent, c'est-à-dire que les mecs bien sapés, classe, les hippies, ils partagent le même idéal, ils ont le même âge, mais ils sont pas habillés pareil, quoi. Donc et là, bon, ok, ce sont les crasseux, cheveux longs, enfin bon, ok, elle va tomber sur un gars qui va être un petit peu, on va dire, ben, son accompagnateur tout au long du film, mais il n'y aura jamais de relation entre eux, relation charnelle, s'entend, hein, c'est une relation d'amitié, enfin un truc assez sympa, et ça va se passer comme ça jusqu'à la fin. Alors côté amourette, bon, ok, pour l'époque c'était quand même déjà un petit peu osé, parce que on voit deux fois l'actrice principale, Aidette, je me rappelle pas, Aidée Politoff, bien toute nue, hein, c'est-à-dire bon, on la voit se déshabiller toute nue, hein, vas-y, recto verso avant de se mettre au lit. Et il y a ensuite une autre scène vers le deux tiers du film où on va les retrouver. Ils étaient montés à Deauville comme ça, ouais, viens, on va à la mer, tout ça. Alors toi tu te dis bon, ok, ouais, elle dit ben, moi j'habite, je viens de Cannes, quoi, donc la mer je connais. Et puis bon, ils l'emmènent à Deauville, il y a personne, bien sûr, on est en plein hiver pratiquement. Et donc, bah, ok. Et en plus, comme la marée est basse, quoi, la mer, elle se trouve à, je sais pas, des kilomètres, quoi, de l'endroit où ils ont posé la voiture. En plus, ils ont posé la voiture. C'est une voiture qu'il a piquée, une grosse américaine. Et donc, comme il a trafiqué les fils, il peut pas éteindre le moteur de la voiture. Donc, ils vont la laisser garer, les portes ouvertes, le moteur qui tourne. Et il dit, ah non, mais attends, j'ai un autre truc et tout. Et donc, il va aller à la piscine à Deauville. Et là, t'as une carnet qui filme une scène, donc, de nu sous-marin. Au départ, ça commence en maillot de bain, mais vite fait, au bout d'un moment, tu vois des images de maillot de bain qui flottent dans l'eau.
D'accord,
ils ont plus le maillot de bain. Et là, bon, bah, ok, t'as une scène vaguement érotique et tout. Et comme, bah, je vous disais hier, Carnet avait ce côté gay, hein, bon, voilà, quoi. Eh bien, on peut dire que, ben, bah, le garçon est filmé sous ses plus beaux atours. Et bon, voilà, c'était la petite parenthèse comme ça. Et aussi une petite parenthèse au début où le héros principal répond à quelqu'un, à une femme, il dit oh ben non, vous savez, moi je suis à voile et à vapeur, hein, donc alors ça passe très très vite fait, hein, disons, faut connaître l'expression aussi, mais enfin bon, ça veut dire ce que ça veut dire, bien que il n'y ait absolument aucune occurrence durant tout le film où on aura bien des interactions homosexuelles, on va dire, entre des différents personnages. Bref, c'est ça se laisse regarder. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est le seul truc d'ailleurs qui est bien dans le film, en fait, c'est la rythmique. Ça, tu t'emmerdes pas. Du début jusqu'à la fin, le film fait 1h40, 100 minutes quand même, mais tu t'emmerdes pas. Il n'y a pas de temps mort, hein. C'est-à-dire, ça passe d'un truc, d'une scène à l'autre et d'une situation à l'autre, assez rapidement. Et là, de ce côté-là, Carnet, il a réussi son coup. Bref. Un film que vous pouvez regarder, peut-être, comme ça, si vous avez rien d'autre à foutre à la télé, un soir, quand il passera très tard, le soir, sur Ciné Plus Club, ou une chaîne de ce genre. Bref, voilà, c'est tout pour voilà, il y a rien d'autre. Alors, je sais que Last Hétéro a également regardé le film, et lui, il avait pas le décalage. On avait pas le même décalage, puisque c'est une histoire d'âge, hein, moi, j'ai vu toutes les vieilles voitures qui tournaient à l'époque, et tout. Il y a une scène à un moment donné où la voiture tombe en panne et là donc ils sont obligés de faire du stop pour rejoindre la Côte d'Azur, et en fait bah il y a plein de voitures qui passent, ouais. Et là je me suis dit ah ben je connais cette voiture, ça, tiens, les vieilles DS, la 404, les trucs, enfin toutes les voitures, là il y a pas de problème. Et on peut dire que sur la National 7 à l'époque
il roulait vachement vite.
C'est
heureusement qu'il y a l'autoroute maintenant.
Ah, heureusement, ouais, on peut le dire, quoi. En tout cas, un petit peu de musique et ensuite, eh bien, on attaque avec Yves Gaillard et on parle de Lina et des petites pastilles.
Pas à la menthe.
Oh.
une petite mise en bouche avant le film Bollywood de ce soir. Alors c'est pas la musique du film, hein, je vous préviens de suite, mais c'est Kalanji Anandji, je crois qu'on a déjà écouté un morceau les émissions passées, c'était le morceau Rafu Shakar, un morceau instrumental, hein, là qui fait vraiment penser plutôt à un film de Blaxploitation au niveau du feeling musical, c'est plutôt les années 70, mais quoique ce soit un morceau qui soit un petit peu plus récent. On est à présent, bah, comme je vous le dis depuis deux ou trois fois, en compagnie d'Yves Gaillard, qui travaille à la Linatech, on va dire, hein,
à l'INA.
À l'INA, quoi, hein. Et donc,
Attends, ça signifie quoi, INA? Parce qu'on le dit beaucoup, mais on sait que c'est un sigle. Mais
c'est marrant parce que
c'est un acronyme.
On le considère, on dit L. On le féminise.
Oui.
Alors que c'est l'Institut national de l'audiovisuel.
C'est vrai qu'on le féminise. C'est vrai.
On pourrait dire YEL peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est l'Institut national de l'audiovisuel.
D'accord. Et le principe de l'INA, c'est de sauvegarder, archiver les programmes qui ont été diffusés à la fois sur la télévision, parce qu'on le connaît beaucoup plus là-dessus, mais également ceux de la radio.
Radio, tout à fait, ouais. Ouais. En fait, l'INA, ça a été créé en 75. Et 1975, au siècle dernier, et donc la mission première, c'est de collecter ce que produisait l'audiovisuel public, donc Radio France, Antenne 2, TF1 quand c'était public, FR3, et les missions ont évolué au fil du temps, et effectivement depuis le début des années 2000, l'INA collecte aussi les chaînes de télé privées, les radios privées, et donc aujourd'hui on a un fonds de plus de 25 millions d'heures de programmes. Et voilà, toute provenance confondue. Et aussi des sites web.
Oui.
On collecte aussi du web lié aux médias audiovisuels depuis 2006.
Ça, c'est un partenariat avec la BNF, il me
semble. Tout à fait, ouais. C'est un partage entre la BNF et l'INA sur cette collecte, ouais.
Voilà, donc vous sauvegardez aussi les sites web, dont radioéphémère.net.
Exactement.
Je rappelle. Faudra rajouter le podcast.fr, mais ça, c'est pour nos podcasts à nous, hein.
Noté.
Voilà. Blague à part, c'est vrai que ça représente quand même un énorme volume de contenu. C'est vous qui allez les chercher au niveau des chaînes ou c'est les chaînes qui vous les fournissent?
Alors, il y a deux modes de collecte. Ce qui est audiovisuel public, on récupère auprès des chaînes, donc auprès de France 3, du groupe France Télé, vraiment les masters.
D'accord.
Bon, sous forme numérique maintenant, mais
oui, bon.
Avant c'était les cassettes, les films, les bandes 16 mm, etc. Et pour tout ce qui est privé, en fait, l'INA enregistre en continu.
D'accord.
Ce qui est diffusé sur le câble, satellite, la TNT, etc.
D'accord, un gros forfait canal, j'ai envie de dire.
Tout à fait, ouais.
Mais qui ne sont que là que pour les enregistrements. Ok, donc du coup, c'est sauvegarde. Donc, vous avez du numérique, vous avez de la cassette, vous avez de la bande. Faut bien les conserver quelque part. Vous avez un lieu pour stocker ou vous avez...
Ah, alors on a un lieu top secret qui est sous le Mont Blanc. Non, je plaisante. On a un centre, le centre de dépôt est en région parisienne.
D'accord.
Saint-Rémy-l'Honoré, précisément. Et en fait, sont des stocks, des hangars qui étaient déjà utilisés par l'ORTF. C'est une ancienne base militaire. Une base d'aviation de la Seconde Guerre mondiale qui a été transformée donc dans les années à la fin des années 40 en lieu de stockage. Donc okay. Tout est collecté, tout est conservé là.
Ça, j'ai envie de dire, c'est la collecte. Maintenant, la diffusion. Alors, je devine que les chaînes partenaires, eux, peuvent accéder au stock de l'INA vu qu'on les retrouve dans les reportages, dans que ça soit audio, que ça soit vidéo. Mais est-ce que le grand public peut aussi y accéder?
Alors, le grand public peut accéder à une partie des fonds. Donc, il y a toutes les archives qui sont mises en ligne sur INA.fr, sur les réseaux sociaux de l'INA, les Instagram, TikTok, etc. Et il y a également le site VOD Madeleine qui propose une sélection, alors plutôt de téléfilms ou de documentaires, de séries, télé aussi. Effectivement, de toute époque, hein, l'ORTF, etc. Sur abonnement.
Sur abonnement. Je sais que sur Madeleine, il y a déjà The Avengers. Enfin,
il y a des séries aussi étrangères, mais qui ont marqué l'histoire de la télévision française. donc qui sont aussi disponibles sur Madeleine.
Ça, c'est, ça concerne les gens, le public en fait, qui a envie de regarder, de se revoir d'anciens programmes. Mais il y a également pratiquement plus à voir quand on est, par exemple, chercheur, enseignant, étudiant. On peut également consulter ses archives. Et il y a également pour les professionnels de la profession, c'est-à-dire d'autres chaînes de télé étrangères, voire françaises, hein, mais qui aimeraient bien de temps en temps passer quelques petits extraits gratinés des anciennes émissions. On a vu apparaître ça, je crois, dans les années 90, avec la première émission de la télé qui parle de télé, hein, Arthur en a fait un petit peu sa fortune. Les enfants de la télé, quoi. On a fait un petit peu sa fortune, puisque bon, il s'est approprié, quoi, le concept, puisque c'était Tchernia au départ, hein,
Pierre Tchernia. Ouais, c'était co-présenté par les deux, ouais.
Qui avait inventé ce type d'émission, justement, pour se souvenir, hein, de la télé, pour que les jeunes générations puissent voir à quoi ça ressemblait dans les années 60. Quand c'était en noir et blanc, aussi.
Quand c'était en noir et blanc.
Et donc, pour les professionnels qui désirent, justement, utiliser ces trucs-là, il y a carrément le à l'international, c'est bien marqué, hein, l'INA Media Pro. Vous êtes pro, vous avez envie d'utiliser des images ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème, c'est là qu'il faut s'adresser.
C'est ça.
Donc, parce que là, c'est payant, quoi.
C'est payant. Alors, en fait, il y a deux accès aussi, pro et chercheur. L'accès chercheur, enfin, c'est chercheurs au sens très large, hein. Ça peut être aussi du grand public, hein, des gens qui ont besoin de faire des recherches dans les fonds radio et télé. Et donc, depuis 2010, l'INA en fait a déployé des postes de consultation un peu partout en France, hein, en Outre-mer aussi, où on peut donc accéder à ces 23 millions d'heures et de consulter sur place sur ces postes dédiés. Donc, il y en a un à la Cinémathèque, enfin, il y en avait un à la bibliothèque de la Cinémathèque, donc qui n'est pas accessible pour le moment parce que la bibliothèque est en travaux, mais qui sera de nouveau consultable dans quelques temps. Et on a aussi un poste à la délégation de Toulouse, donc à l'Arche Maringo.
D'accord.
Et ensuite, pour les professionnels, effectivement, INA Media Pro, qui est un site de vente d'archives, d'images et de sons, qui est sur accréditation. Et on a effectivement des demandes qui viennent du monde entier. Parce que là, comme l'INA a vraiment un dispositif de conservation qui est reconnu même dans le monde entier, il y a parfois même des images de télévision étrangères qui ont pu être diffusées à l'occasion d'un événement n'importe lequel. Et en fait, les images de très bonne qualité se trouvent à l'INA. Les télévisions étrangères n'ont pas conservé forcément leurs archives ou alors dans de mauvaises conditions. Et donc, il y a aussi des télés qui nous demandent leurs propres images. Parce que on conserve bien.
Ouais, ça doit concerner surtout les autres pays européens, quoi, je suppose.
Et pas que, non, il y a beaucoup de demandes vraiment à l'international. Les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, enfin tous les continents.
Ouais. Ah bon, j'avais cru que quand même du côté des États-Unis, on peut pas dire les inventeurs de la télé, mais enfin bon, ceux qui ont fait que le média devienne ce qu'il est devenu, c'est quand même les ricains, quoi.
La culture française, ça les intéresse aussi, hein, donc en particulier tout ce qui peut être variété ou. Récemment on a eu des demandes d'images de Serge Gainsbourg, forcément de Jane Birkin aussi, paix à son âme, des demandes de partout.
Justement, c'est à l'occasion de grands événements comme des morts de célébrités ou autres.
T'appelles ça un grand événement.
Ça sort les archives du frigo, comme on dit.
Voilà, ça sort les archives du frigo. Je donnais l'exemple des morts de célébrités parce qu'il en a parlé de quelques-uns. Mais après, c'est vrai que ça peut être aussi des événements. Ça peut être le 14 juillet ou d'autres. Là, on va avoir les JO. Donc, retrouver les commentaires des JO des précédents.
Ouais, je pense exactement, que
ça va être
très.
Ça va être très demandé. D'ailleurs, vous les avez tous les enregistrements de ces JO.
On a
filmé, hein.
Donc on a les images des Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, c'est organisé par le CIO, le Comité International Olympique.
Donc c'est le CIO qui est propriétaire des images.
Qui a les droits sur les, une partie des droits sur les images, Donc, ils font passer par
quelle
eux
que
aussi.
Soit la télé qui est
exactement ouais puisque chaque fois que c'était tourné dans un pays le Japon etc c'était les télés nationales qui filmaient les compétitions.
Mais vous enregistrez quand même ce qui est diffusé sur la chaîne nationale en France. Alors ça peut être TF1, ça peut être France Télévisions, mais vous avez quand même récupéré aussi cette diffusion là.
Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr, on les a tous les JO depuis qu'il y a de la télé, quoi.
Voilà. Alors ça veut dire que les chaînes publiques qui vont, par exemple là, on va avoir les Jeux Olympiques à Paris dans quelques mois, les chaînes qui vont diffuser l'événement en direct, vont se servir également d'images d'archives pour alimenter un petit peu quoi, l'information continue. Donc c'est, on va dire, une servitude pour elles. Peut-être de vous fournir en stock de fonds toutes ces images, mais en contrepartie, quand elles ont besoin des images, est-ce qu'elles doivent payer ou est-ce qu'il y a une espèce d'échange de bons procédés qui opère dans ce cas-là ?
Ça dépend des chaînes, en fait. Les chaînes de l'audiovisuel public, effectivement, il y a des accords avec l'INA parce qu'on fait partie du même groupe.
Vous avez été réunis, d'ailleurs, à un moment de votre histoire à l'INA, quoi, avec justement les chaînes publiques, hein, à l'intérieur, plus ou moins dans une espèce de même conglomérat.
Même si effectivement c'est des projets qui traînent le pouvoir actuel aimerait bien voir concrétiser, en tout cas de recréer l'ORTF, on n'en est pas là. Et après effectivement les chaînes privées elles achètent les images.
Justement l'INA a été créée à la suite de la scission de l'ORTF.
En 75 l'ORTF a éclaté. Et donc, ça a mené à la création de TF1, de Antenne 2, de FR3 et de l'INA.
Et de Radio France.
Et de Radio France, bien sûr.
Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le médium radio.
À cette occasion-là, j'ai ramené quelques goodies. Ah oui, je suis obligé de me retourner, quoi. Parce que tu parlais de Stéphane, donc
génial.
Voilà le c'est le premier logo. Donc
j'ai
sous
les yeux des chaussettes TF1.
Voilà, c'est quand même télévision française.
Ainsi qu'une casquette avec le logo TF1.
Avant TF1, ça s'appelait encore La Une.
Oui,
puisque comme c'était la première chaîne et que dans les années 60, tu pressais que un bouton, puisque tu n'avais pas d'autre chaîne.
Il n'y avait même pas de bouton.
Au fur et à mesure, il y a eu la deuxième, puis la troisième, vers la fin des années 60, puisque c'était la télé qui était à usage régional, quoi. C'est là que sont apparues les émissions régionales.
Des équipes installées.
Avec des équipes installées à Toulouse, dans chaque région, quoi.
Vu qu'on est dans les cadeaux, moi je vous ai ramené. Alors attends, c'est lourd. J'ai l'intégrale des correspondances épistolaires de Patrick Poivre d'Arvor. Je peux te dire que
ça a été le sujet d'une des pastilles, mais je réserve quand on parlera de la pastille.
Tu gardes le poivre, ça marche.
L'homme qui vient de parler, c'est Axel qui vient de débarquer là, parce que on en parlera un petit peu après. On fera un petit topo sur le western de demain, hein. C'est ce qu'on avait décidé. C'est pour ça qu'il est là. Le reste, il s'en fout complètement.
Je fais ce que je peux. Voilà. J'ai une petite question justement, l'INA. C'est financé comment en dehors du paiement pour l'abonnement avec Madeleine, avec je pense me semble qu'on peut acheter aussi quelques émissions sur le site de l'INA. Les pros achètent directement. Les chercheurs, je devine qu'ils doivent avoir une rétribution, mais ça doit quand même coûter pas mal de sauvegarder tout ça. Mais d'où vient le gros du budget ?
Alors le gros du budget était fourni jusqu'à peu par la redevance télé qui a été supprimée.
Ah bah tiens.
Pour l'instant, en fait, l'État accorde une aide à l'audiovisuel public, mais qui devra être renégociée dans quelques années. Pour le moment, le financement est assuré pour les trois prochaines années, mais on ne sait pas pour la suite.
Et comme
exactement, et Radio France. Ouais.
Ah ouais, il y a quand même un flou pour après ces 3 ans à venir.
L'audiovisuel public en général, personne ne sait trop ce qui va se passer avec les projets de holding, etc.
Ok, donc le financement, c'est nos impôts. Ah,
ça, pour l'instant. Mais il y a également... Oui.
Moi, je suis pas solvable, je m'en bats les couilles. Non,
bah, il y a également, bah, justement, tu le disais avant, bon, bah, ou je le disais avant, de toute façon, bon, bah, la contribution que font les télés qui veulent se servir cette source. Ouais. Et il y a également quelques produits dérivés, parce que vous avez également bien une mini DVD tech, des DVD qui sont édités, avec des espèces de thématiques. Quoi. C'est-à-dire que là, c'est... justement pour remettre en lumière des thématiques ou des émissions qui est un petit peu marqué, on va dire. Et mais bon, ça doit être, je veux dire, anecdotique au niveau du
gros
budget.
C'est effectivement les aides de l'État, mais l'INA doit se financer à hauteur de 30% de
son budget. Du coup, c'est les chaînes, c'est les... C'est
exactement, la vente d'archives surtout. Ouais.
Voilà, c'est ça. Depuis 2006, CD, DVD, Blu-ray. Quoi, et donc, on peut...
Il y a aussi des émissions, on en parlait hors antenne. Donc, il y a une émission qui passe sur... c'est la chaîne parlementaire ou c'est...
C'est LCP.
En bobina.
C'est LCP. C'est LCP, ok. Il y a aussi des pastilles sur France Info.
Retour
vers l'info. Et Lina Tondu. Entière qui est diffusée sur toujours France Info. J'ai pas d'autres émissions. Enfants de la télé. Après il y a d'autres.
C'est l'émission de Patrick Cohen où il a dit je vais faire les enfants de la télé, mais on a un télo en fait rembobina.
En fait c'est vrai que l'INA, il y a une volonté en fait d'aller de plus en plus vers la production de contenu, de se définir comme média patrimonial, comme dirait notre président. Et c'est une sorte de nouvelle mission, parce que pendant presque 20 ans, la mission première, c'était de numériser, de sauvegarder tous les fonds. Mmh. Et là, quasiment tout est numérisé. Ouais. Donc, c'est une nouvelle base.
C'est le moment d'exploiter.
Donc, on est maintenant vraiment dans la création.
En plus, à l'heure actuelle, là, avec toute cette nouvelle manière de consommer, surtout à travers les réels, je me souviens qu'avant la télé, bon, bah, il y avait le zap de Canal+, qui est aujourd'hui devenu le Vu. Donc heureusement, ils ont réussi à sauvegarder ça face à certains oligarques qui aimeraient les voir supprimés. Mais Internet, c'est construit que sur ce type de consommation, ce type de montage aussi, quoi, très rapide, condensé en moins d'une minute, thématique, quitte à parfois aller dans le non-sens. Du coup, ça a un intérêt, de redigérer ces images.
Carrément. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai des chiffres de 2023 et toutes plateformes confondues, il y a eu plus de 1 milliard de vues. Gigantesque. Sur les archives INA, sur les différentes plateformes Internet.
Il faut signaler que l'INA est aussi présent sur YouTube, sur Dailymotion,
sur TikTok.
Sur Insta.
Je suis assez choqué de voir comment même. Tout le monde en parle d'Ardisson, ça fait partie des trucs les plus revisionnés des archives. Et il a eu beaucoup de pépites, lui, apparemment.
Ah ouais, Ardisson, Mireille Dumas aussi, qui fait un accord avec l'INA.
Plus une petite série d'animation que moi je passe de temps en temps, c'est les Shadok.
Ah, formidable les Shadok. 68.
Mignon. Ouais.
Ah, péché mignon, là, complet. Péché franchement mignon. L'INA, c'est également présent ici. Tu voulais rajouter quelque chose? On passe aux pastilles? Non, on va passer aux pastilles.
Non, moi, je continue à regarder mes machins, là, et puis, toi, tu fais la causette avec le monsieur, quoi.
Ok, on va parler des pastilles, parce que dans le cadre de l'extrême cinéma, donc, l'INA, nous propose, juste avant certains films, voir une grosse sélection pendant la nuit de clôture de pastilles assez originales. Alors j'ai pas pu voir la première pastille parce que c'était avant Isla. C'était en fait un reportage sur le tournage d'un film avec l'actrice d'Eva Braun.
Le tournage sur du film Le Führer en folie de Philippe Clair, donc avec Alice Sapritch qui joue le rôle d'Eva Braun, c'est une coulisse de tournage. C'est un élément promotionnel du film qui est en train d'être fabriqué, quoi. Et puis bon, qui sera certainement à l'affiche 6 mois plus tard ou 1 an plus tard. Alors bon, c'est la truculente, la très grande actrice qu'est Alice Sapritch qu'on voit, une espèce de petit juste au corps avec son casque allemand et puis C'est couette. Quelques petits, et c'est couette, ouais, ouais, les couettes, ça passe, les couettes très importantes.
Bah, ah,
ça s'appelle la langue, s'en sert, on ne va pas dire pourquoi.
Terroir.
Et du Haïli Haïlo, enfin, en veux-tu, en voilà. Bref, bonne humeur, quoi. En tout cas, c'était assez sympa, quoi. Et bon, c'était vraiment le c'était le raccord par rapport à, bah, à la série de films, dont
ouais,
Lisa,
parce que
le premier, c'est la Louve SS.
Ouais, c'est ça, c'était plutôt, effectivement, en lien avec la Louve SS, donc c'est quand même pour les initiés, enfin, ceux qui percutent le lien.
Ceux qui ont un sens de la vision.
J'ai envie de dire. Et il y avait une petite coloration toulousaine, puisqu'il y a Henri Tizot aussi, qui apparaît, qui joue le rôle d'Adolf Hitler.
Oui, oui, Henri Tizot.
On voit dans, dans l'interview.
Ouais, ouais. Oui, lui, qui ne savait pas trop où se mettre.
Non, parce que Alissa Pritch s'en bat dans
Pritch,
une
grande anglais. Elle part dans un truc.
Et lui, c'est pas si c'est pour rire ou pas.
Ouais, justement, quoi. C'est un peu gêné, quoi. Il est un peu gêné, quoi. Enfin, bon, bref, quoi. Ah, c'est, il y avait également...
Il y avait une deuxième, mais qui était avant Colombrion par Braconnet.
Ouais.
Alors là, par contre, c'était un peu particulier. Enfin, c'était un micro trottoir dans le cadre de Opinion sur rue,
ouais.
Voilà, qui est une émission présentée par Patrick Poivre-d'Arvor. Par contre,
ça c'est déjà les années 80. Alors.
On est en 83, même le 26 novembre, je dirais, parce que c'est marqué. Donc c'est marqué dessus. Et en fait, voilà, on a un micro trottoir et en fait, la personne va interroger voilà des gens autour de mots de la sexualité en général. Et il y a des perles complètes du style l'homosexualité. En fait, c'est un nouveau savant de chez Homo. Voilà, on en a toute
première
une...
chaîne d'Europe, hein. C'est bien. C'est
bien. Ouais, je me souviens plus de tout ce qui passe, mais vraiment, il y avait toute une série. Par contre, la dernière, c'était la nymphomane, et pour la personne, c'était un présentateur d'information.
Ouais.
Et c'est et
bien choucat, hein.
et c'est surtout que il donna comme exemple PPDA qui était le
loin devant.
non mais si tu veux c'était lui qui animait l'émission donc se retrouver là-dessus sur le terme de nymphomane.
Ah, mais, c'est du
quand tu vois maintenant que... mais quand tu vois maintenant tu fais ah il n'y avait pas tort sur ce coup-là mais bon je me souviens plus de tous les termes qu'il avait
monogamie, il y avait exhibitionnisme, il y avait partie carrée.
Ouais, maison close, le coup de la maison close aussi, elle était pas mal.
Il faut bien isoler.
Voilà,
il faut mettre du double vitrage. Ouais. Ça marche bien, 25% de charge en moins.
Voilà. On est en plein dedans, là on est en plein dedans, dans l'actualité.
Non, c'était marrant et franchement, c'était par rapport à l'autre film, par rapport au film qui arrivait derrière, ça faisait préparer un peu le thème tout en... débridant.
Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire avec les programmateurs d'extrême. C'est je leur propose des pastilles qui peuvent répondre à des programmes. C'est un travail qu'on mène toute l'année, ouais, qui est vraiment un lien, un jeu de contraste entre les deux. Et c'est un travail qu'on mène à l'année, hein, sur des sujets plus sérieux. Là, il y a bientôt un cycle sur Julien Duvivier, donc c'est un peu moins fun, mais ce sont des très beaux films. Et donc là, en fait, je leur propose des archives, des interviews de Duvivier, des interviews de ses comédiens qui parlent, qui ont été réalisés lors de la sortie des films.
Et donc du coup, de vous proposer voilà toute une série de pastilles donc aux programmateurs de la Cinémathèque, pas que Extrême Cinéma, et comme ça permet de montrer, mais justement quand vous faites votre choix, parce que bon, ce micro-trottoir était juste sublime, mais je devine que vu le stock qu'il y a, comme vous l'avez dit, plus de 23 millions d'heures, c'est énorme, mais c'est bien tagué, enfin les recherches sont faciles, difficiles.
Alors en fait c'est vraiment un travail collaboratif de tous les documentalistes de l'INA qui au fil des ans, mais depuis encore une fois des décennies, en fait mettent de côté les archives les plus insolites. On a même des tags comme images insolites. Et donc ça permet effectivement ensuite de faire des recherches sur les sujets les plus farfelus. Et c'est un des grands plaisirs de ce métier, quand on travaille à l'INA, de pouvoir aller farfouiller et retrouver des perles, comme le tournage, par exemple, de Un Fureur en folie, qui au début était à peine il n'y avait pas d'infos, en fait, mais c'est juste en faisant des recherches sur les titres de films que l'archive est ressortie.
D'accord. Il y a donc pour la soirée, il y en avait prévu.
Oui.
Pour la soirée de la nuit, mais.
Mais surprise.
Surprise. D'accord, ok. On va pas aller.
Moi, j'avais vu celle avec le cascadeur. Alors ça, c'est un truc américain. Et puis bon, en fait, c'est un type qui se fait tirer par. Alors, il conduit au départ, le début du truc, tu te dis, ouais, le mec, il se prépare. Alors, il enfile trois combinaisons pour.
En titanium.
Alors, tu te dis, et puis il parle de stockard, quoi. Non, pas de stockard.
De dragster.
De dragster, quoi. Et puis tu vois le gros dragster et tout. Dans la nuit, en plus, ça se passe la nuit. C'est ça qui est assez dingue, ça se passe pas la journée. Et tu dis, bon, ok, le mec, il va aller, un dragster, il peut monter jusqu'à 300 à l'heure en 1 seconde 4. Enfin, bon, voilà, quoi. Bon, c'est le principe du dragster, de toute façon. Et en fait, non, le mec, au bout d'un moment, quand il est arraché, qu'il sort et puis qu'il arrive au dragster, tu vois qu'il y a une espèce de petite remorque derrière le dragster et le type, il va s'accrocher à cette petite remorque qui est montée sur des petits trous, comme ça, quoi. Et il va se faire traîner au sol par le dragster qui va faire justement quoi
qui
sur 300 km/h hop à fond les manettes et pour se protéger sur sa troisième combinaison donc eh bien il a des espèces de coudières, des épaulières, des genouillères, des trucs comme ça mais qui sont renforcés avec du tungstène. Et alors bon, vu le commentaire un petit peu très 60s du commentateur donc pour décrire justement ce qui se passe, quoi. Pour lui, le tungstène, mais c'est le truc, c'est un métal extraordinaire qu'on connaissait pas il y a très longtemps. C'est vrai que c'est un métal assez récent, en fait, quoi. Mais
et un présentateur qui n'est autre que Jacques Martin.
C'est Jacques Martin, d'accord, ok. Non, parce qu'il prend une voix très très officielle comme ça, quoi. On dirait qu'il est en train de commenter, mais n'importe quoi, il commenterait des obsèques, quoi. Ce serait exactement la même chose, le même ton de voix, quoi. Et bon, ok, tu te dis bon, d'accord, ok, c'est sympa, quoi.
Et c'était une émission qui s'appelait Incroyable mais vrai.
Et en plus, donc, c'était Incroyable mais vrai.
Il fallait
d'accord.
que ce soit à la hauteur de la réputation titre de l'émission.
Okay. Oui, mais là, ils avaient chopé ce truc-là.
C'était une espèce de coprod avec les États-Unis.
Oui.
Donc ils récupéraient des reportages tout près, quoi.
Ok. Et donc, il en reste combien alors à passer durant cette
nuit? Alors, officiellement, puisque donc effectivement pendant la nuit, il va y en avoir qui sont pas sur le programme. Donc c'est un peu la surprise.
Il y a juste marqué des pastilles.
C'est tout.
Juste marqué pastilles spéciales.
Pastilles spéciales de la nuit de clôture.
Voilà.
Gaillarde et inanérable, dont on préservera la surprise.
Voilà.
Sachant les sélections que vous faites à chaque nuit de clôture, on peut dire que, ok, hein, ça va partir un petit peu en vrille.
Oui, ça sera un peu régional d'ailleurs. Il y aura des images tournées dans les Pyrénées-Orientales chez un entrepreneur de l'époque qui produisait des films X
avec ses brebis et tout
et ses oies, vous verrez.
Oh, voilà. J'ai le flair pour ça.
Oh, putain. Très bien.
Attends, j'ai juste une petite question, mais là ça concerne l'émission Mirage qui aura lieu tout à l'heure à 22h. Le GRM, c'est bien une structure de l'INA.
Exactement, ouais, ça fait partie de l'INA. Ouais.
Ça fait partie de l'INA et donc c'est les musiques électroniques qui étaient inventées. C'était dans quelle année, 60?
Alors le GRM, ça a été créé au début des années 60. Et en fait, ça faisait partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle Service de la Recherche, qui faisait aussi, qui a produit les Shadows, par exemple. Mm-hmm. Donc, qui faisait de la recherche.
Ouais, la musique des Shadows, enfin, les sons des Shadows.
C'est les gens du GRM.
C'est les mecs du GRM.
Ouais. Le GRM, effectivement, existe toujours, produit des œuvres, accueille des musiciens en résidence, organise des festivals. C'est toujours très actif. Ouais.
D'accord, c'est toujours actif. D'ailleurs, il y a une application avec le GRM. J'ai vu qu'il y avait
le GRM Tools.
Ouais. où on peut faire sa propre musique avec des samples
de GRM. Par plein de musiciens, dont Jean-Pierre Madère, je vous l'appelle.
Ah bon ?
Qui est un fan du GRM Tools.
Ok.
Très bien. Allez, on met la musique et puis on parle des films qui vont avoir lieu cet après-midi et ce soir pour terminer cette émission. Vas-y, au revoir.
More bad weather on the way. Thank you.
on est obligé de couper la chic à Steve Martin.
Ah, ouais, tu nous as coupé la chic là.
C'était Steve Martin là qui joue du banjo quoi.
C'est ton moment country le jeudi, t'en as besoin. Ça donne pas envie de brûler une croix dans un champ.
Mais c'est Steve Martin quoi, hein, quand même quoi. C'est pour montrer qu'il sait que c'est un bon acteur, mais c'est également un excellent joueur de banjo. Voilà les films à venir aujourd'hui. Alors on va commencer vite par le double programme Les Printemps Tardifs avec le film Parking de Jacques Demy. Alors bon, c'est pas compliqué, Jacques Demy. En plus c'est son dernier film, hein. Après il est mort peu de temps après. Et bon bah on le présente plus, hein, le mec qui a obtenu un Oscar, Les Parapluies de Cherbourg.
Ah ouais, c'est surtout un des grands auteurs là, français, ouais, nouvelle vague assimilée, hein. Mais
vas-y quoi. Et là bon, donc dans ce dernier film qui date de 1995, eh ben il s'emmerde pas, on va le dire franchement quoi. Il transpose en fait le mythe d'Orphée, Orphée du film de Cocteau quoi, hein, c'est-à-dire un petit peu la même histoire, mais il va le transposer dans le monde moderne. Et là Orphée,
toujours dans son anachronisme comme pour comme pour Podane quoi.
Ouais, mais la pire quoi. Mais là Francis Huster eh bien joue le rôle de Orphée, donc il est chanteur de rock. Et Eurydice, elle, c'est Keiko Ito, et elle est graphiste, peintre, enfin bon, voilà quoi. Et donc le film commence parce que bien il y a une chanteuse qui se fait pendant un concert, qui se fait électrocuter sur scène.
Ça arrive.
Bon, eh ben voilà quoi, c'est normal, c'était le matos des années 80. Le casting.
Est-ce que ce film est déconseillé pour les il y a une, je veux dire, une limite d'âge ou pas?
Non, pas du tout.
Parce que vu que quand même Demy, ça peut valoir le coup d'amener ses enfants des fois.
Ouais, je dirais plutôt les ados quoi, ouais. En fait quoi, okay. Si ça peut les intéresser quoi. Alors Marie-France Pisier dans le rôle de Perséphone, on a également Eva Darlan, Marion Game, Gérard Klein, Jean Marais qui joue le rôle de Hadès. Ouais. Ah ouais, il était déjà un peu vieux, donc on a dit vas-y, c'est bon, la musique de Michel Legrand.
Bien
donc
sûr.
Tu vois, c'est OK, c'est le gros package et tout, le film quand il est sorti en salle, je veux dire, il y a du monde qui y allait quoi. Mais moi quoi, donc OK. Voilà quoi. J'aurais pas dû, mais bon, ouais. Hein, qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est quand t'as vu le film que tu dis merde.
Tu comprends pourquoi faut pas y aller.
Voilà. Ça, c'est donc, la séance, dans la petite salle, hein, de la salle 2, donc, de la Cinémathèque, ce soir à 19h. Et donc, ce sera en concurrence avec, la séance très spéciale, également à 19h, The Appointment, un film de Lindsay Vickers. Alors, avec mes recherches, eh bien, je peux vous dire que Lindsay Vickers, c'est son seul film qu'il a réalisé, mais il a beaucoup bossé, assistant réalisateur, même stage manager, enfin des trucs comme ça, dans les séries et un petit peu dans le cinéma. Par contre, au niveau des deux acteurs principaux, là, c'est pas mal. On connaît quand même, parce que c'est Edward Woodward qui joue le rôle du papa. Edward Woodward, décédé en 2009, entre autres. Eh bien, on l'a vu dans The Wicker Man, la version 73. Hein,
bien sûr.
Pas l'autre, là.
C'est le flic.
On l'a vu dans Hot Fuzz, donc, en 2007.
Oui, ça y est.
Mais on le connaît surtout pour le rôle de Robert McCall. L'équaliseur, c'est lui l'équaliseur dans la série de 85 à 89, 88 épisodes quand même, et la série, elle tenait vachement bien la route, et le générique était excellent. Hein, bon, voilà. Et donc, la fille qui va avoir des sacrés problèmes, bon, surtout, quoi, elle commence à ressentir certaines choses pas nettes, et ça va partir dans un truc pas possible, c'est Samantha Wilson, qu'on avait vu assez jeune dans Le Club des Cinq, en 70.
Ah, d'accord,
tu
okay,
vois,
ouais.
Hein, le film date de 82, hein, tu
ouais,
vois, quoi,
donc, pas, ouais.
Voilà, quoi, et puis, elle a également joué dans Superman 4, ça c'est un petit peu plus anecdotique, non, enfin voilà, quoi, mais elle fait quand même le taf, ça c'est donc ce soir dans la grande salle à 19h, et le clou de la soirée, bien entendu, c'est Virana, ouais, le deuxième film Bollywood d'horreur de cette série, de cette sélection 2024 de
l'extrême. Celui-là, il peut être hardcore, celui-là.
C'est alors, pas possible. Il est bien, il est hardcore, ça c'est sûr. Et en fait, l'histoire est très simple. Hein. C'est bon, bah c'est le mythe de Dracula, tout ça et tout. Mm-hmm. Et le héros est une héroïne. C'est ça qui est bien aussi. Hein. Pour une fois, c'est une nana qui a le beau rôle. Et elle a été envoûtée par une sorcière quand elle était gamine. Et depuis, bon, bah, ok, pour elle a tout le temps besoin d'étancher sa soif de sang.
Ça
donc,
arrive
en tant que vampire. Donc ça arrive. Ouais, c'est vrai quoi. Et donc, bah ça dure 2h40 et puis bon, ça passe par tous les états. Et comme ce film date de 88, eh bien les deux frangins Ramsay ils se sont dit ouais cool, nous on regarde pas que le Bollywood, on regarde, on lorgne un petit peu aussi de ce qui se passe, de les nouvelles productions américaines, des nouvelles tendances, des nouveaux genres comme l'horreur, des trucs comme ça. Et puis là, ok, bah on fait des petits emprunts habiles à Bava entre autres, et puis à d'autres réalisateurs du même acabit, Sam Raimi, enfin bon, voilà quoi, c'est-à-dire bon, ok, on pioche et puis c'est bon. Mais c'est une des tendances, c'est une des pratiques habituelles du cinéma indien, quoi, c'est-à-dire de pas s'emmerder la vie et de se dire, ah ben si ça c'est bien, bon allez, on le refait. Bon, on le refait avec nos fringues, nos trucs, nos emplacements, mais c'est pas grave, on le refait, ça marche, quoi. Et donc, outre Jasmine, donc, qui tient le rôle principal, il y a également celui qui va tenir un grand rôle, hein, qui joue plus ou moins le rôle officier de Dracula dans le film, c'est Hermann Bijé. Et Hermann Bijé, lui, on l'a vu toujours dans les films indiens, dans Les Aventures de Tarzan, et il joue le rôle de Tarzan, bien sûr, ou dans un autre film de Tarzan, Tarzan qui bétit, et tout ça dans les années 80. Alors, on notera la présence, quand même, de deux acteurs, Kulbhushan Karmanda et Rajesh Vivek, qu'on a pu voir dans le film dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle Lagan, qui était sorti en 2001, qui avait été présenté au Festival de Cannes. C'était une première pour un film de Bollywood et qui avait bien marché. Et film haut de gamme quand même, hein, c'est-à-dire coproduction Bollywood et britannique. Donc, il y a du pognon, mais c'est pour l'occidental. Donc, et un film qui était vraiment super, quoi, que je conseille à tout le monde de regarder. Vous pouvez le trouver, celui-là, en DVD. Pas de problème, hein, c'est Lagan. Et ça, donc, c'est ce soir à partir de 21h. Bah, je crois que cette émission est complètement terminée. On va pas essayer de dépasser parce que sinon, on se fait le couper les sifflets, de toute façon.
Oui, et surtout, l'enregistrement à l'INA va pas être bon, donc.
oui, en plus, ouais, l'enregistrement. Alors, déjà, on se fait enregistrer entre nous, ensuite, on enregistre les trucs extérieurs et tout, et ensuite, vous nous enregistrez aussi. Mais on est espionné de partout, là. C'est incroyable. Et plus oui, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes pour parler du grand silence de demain midi.
Oui, allez, vas-y. Si vous êtes adepte de western, mais surtout de western italien, vu que c'est le cycle western spaghetti à la Cinémathèque, il faut se rendre demain midi pour voir, à mon avis, le meilleur western de tous les temps. Peut-être ex aequo avec Il était une fois dans l'Ouest, mais il est vachement inspiré américain. Alors que le grand silence demain, Corbucci, le deuxième Sergio, hein, comme diraient les Tarantino, c'est-à-dire vraiment pour lui, Sergio Leone, Sergio Corbucci, il dit que c'est les deux meilleurs auteurs de western. Il le dit dans Once Upon a Time in Hollywood.
Mais il y a également Solima, quoi.
Mais il y a Solima, bien sûr.
Non, moi je dis il y a les trois Sergio.
Point. Il y a les trois Sergio. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, demain c'est le grand silence, donc avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski. Donc on est sur un espèce de casting tour de Babel, hein, mais comme ça se faisait beaucoup dans les productions italiennes.
Il en a fait une chier, hein, de western, hein.
Mais moi, c'est un des westerns que j'ai vu qu'une fois au cinéma, parce que demain, je pense, c'est ce que vous allez avoir, c'est la restauration 4K du film qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Donc, le film, vu qu'il se passe essentiellement dans la neige, on est dans un décor un peu métaphysique, c'est presque un peu comme une pièce de Beckett, quoi. Le truc est mystique parce que décor blanc, neige et des archétypes, un chasseur de primes à qui on a coupé la langue, un autre chasseur de primes machiavélique. Et au milieu de tout ça, surtout, moi, c'est, enfin, demain, si vous voulez avoir un film qui est, on dit crépusculaire, mais même j'ai envie de dire apocalyptique, c'est presque un décor de fin du monde, quoi. Il faut voir ça demain, parce que au-delà des archétypes, le film, il a ce petit truc de très mystique, en fait, qu'on retrouve beaucoup finalement dans les films italiens, lorsque les Italiens ça se réapproprie un genre. Suffit de voir les films de zombies américains, quand ça devient des films de zombies italiens dans les années 70, on est plus dans des trucs archaïques et tout. Et il y a ça, je trouve, dans le western, un rapport à la mort et tout. Et le grand silence, bonne claque, ouais. Peut-être qu'on en redira 2-3 mots demain. Mais allez voir ça demain midi.
Allez, nous, allez-y, allez-y. Ouais. Et en plus, les séances de midi, ça coûte la moitié du prix. Hein, c'est-à-dire que vous payez 4€ pour aller voir un film, quoi. Donc, ça vaut quand même le coup de se lever un petit peu le matin pour regarder un espèce de bon western. Allez, cette émission est complètement terminée. On vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle session de crossover extrême. Et on sera en compagnie de Franck Lubet qui nous imitera agréablement les pensées les bons conseils de Gaspard Noé, vu qu'il va faire Gaspard Noé à la place de Gaspard Noé qui sera pas encore
dans le mur. C'est capillairement, ils s'entendent bien.
Ouais, capillairement, ouais, c'est vrai. Allez, tout de suite, place à la musique dans le studio de Radio Éphémère. On vous souhaite une bonne après-midi et on vous donne rendez-vous à demain. Merci encore Yves pour cette participation. Et puis bon, à la prochaine.
Au festival, verra, à la prochaine.
N'y a pas de problème. Et puis au festival, bien sûr. Quoi.
Allez, ciao, ciao.
On se souhaite.
Éphémère 89.1.